Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2. Rencontre avec Johanna Folivelli autour de sa bande dessinée Devenir, parue à 2 Points Éditions, le 28 avril 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux. On est super contentes et contents ce soir de recevoir Johanna Folivelli. Vraiment encore merci d'être venue pour présenter sa bande dessinée Devenir. C'est paru chez 2 Points Éditions. On les salue d'ailleurs. La rencontre sera modérée par Mathilde. Merci beaucoup à toi aussi. Mathilde proposera son fanzine en fin de rencontre d'ailleurs. Donc vous pourrez, je ne sais pas si tu auras l'occasion de parler un petit peu de ton travail d'artiste, comédienne. Enfin, la liste est très longue aussi. Encore merci. Alors la rencontre est non seulement amplifiée mais enregistrée. Parce que maintenant Terra Nova a une chaîne de podcast sur Spotify. Et donc voilà, bientôt vous pourrez le retrouver. Simplement à la fin de la rencontre, si vous n'avez pas envie que votre question apparaisse dans le podcast, évidemment vous pouvez nous le dire. La rencontre sera suivie d'une séance de dédicace et éventuellement d'une discussion. Voilà. Merci beaucoup et bonne rencontre.
Salut, vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Très bien, donc bienvenue à tous. Je suis en compagnie de Johanna Folivelli, donc artiste, illustratrice, musicienne aussi, on peut le dire un petit peu. Et on est là pour parler de ta BD, roman graphique. Tiens, c'est une bonne première question. Moi, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que tu présentes ta première œuvre? Est-ce que tu dis BD? Est-ce que tu dis roman graphique?
Bonsoir tout le monde, du coup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Je considère que c'est une BD poétique. Voilà, je pense que c'est le bien résumé.
Ok, très bien. Donc ta première BD poétique. Voilà, moi, ma première question que j'avais envie de te poser un peu, c'est que je trouve que tu as quand même un style de dessin qui est bien particulier, qui t'est propre et que moi, je n'ai jamais vu ailleurs. Et je me demandais quelles étaient tes inspirations, en fait. D'où est-ce que tu tiens ton style graphique?
C'est vraiment super large.
Ouais, c'est ce que je me suis dit.
C'est une excellente question pour en bande dessinée, en illustration, tout.
Particulièrement sur Devenir.
Sur Devenir.
Ouais.
En fait, c'est surtout des livres des années 60, 70. J'ai failli dire 70. Je reviens de Belgique, donc voilà. du coup, c'est surtout des livres qui étaient illustrés, des livres de poésie à la base, genre par Léonore Fini, par exemple. C'était pas une illustratrice, c'était genre une artiste graphique, peintre, qui était proche des milieux surréalistes. Et elle m'a énormément influencée. Et c'était généralement des beaux livres, en fait, qui étaient illustrés avec ses amis qui étaient écrivains. J'avais trop envie de cette vibe, en fait. C'est ça qui a démarré le projet avec ce livre-là, parce que moi, je cherchais surtout des éditoristes qui puissent être adaptés à mon style, parce que j'ai toujours fait des bandes dessinées qui étaient un peu à part. D'ailleurs, on m'a dit plein de fois, c'est pas de la BD ce que tu fais. Il fallait des gens qui comprennent, en fait, le truc. Et du coup, je suis tombée sur Flora et Louise, mes éditrices, qui comprenaient parfaitement la démarche, du coup. Ça a été, c'était genre, oh là là, la lumière qui s'ouvre, c'était incroyable.
Et du coup, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est elles qui sont venues te chercher, qui ont vu un peu ton style et ce que tu voulais faire et qui t'ont dit, est-ce que ça te plairait de faire éditer quelque chose chez nous? Ou au contraire, est-ce que c'est toi qui es venue les chercher en te disant que puisqu'elles comprenaient ton style, c'était possible?
C'est vraiment elles qui m'ont contactée direct, c'est Louise du coup qui m'a contactée, non pas Louise, Flora. Et elle m'a juste dit, est-ce que tu as besoin d'argent? Et,
oui.
Et sur le coup, j'ai dit, pour l'instant, c'est pas la priorité. Et du coup, elle m'a dit, c'est très bien, alors on peut t'éditer à ce moment-là parce qu'on démarre. Et parce qu'elles avaient juste sorti un livre auparavant. Et du coup, moi, j'étais juste super chaude de commencer un truc. Ça faisait un an que j'avais un projet, du coup, de venir. C'était en 2020 du coup que j'ai l'idée de faire le livre et je cherchais désespérément, je me suis dit il n'y a personne qui en voudra d'un truc pareil, c'est trop ovni en fait. Et ouais, heureusement du coup Flora m'a contactée et m'a dit on peut faire le livre ensemble.
Et du coup c'est pour ça que je te posais la question un peu au début, comment est-ce que toi tu appelles cette œuvre là puisque apparemment on t'a dit c'est pas de la BD.
Complètement, oui. Mais même aux études, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'ai fait Saint-Luc à Liège, du coup en Belgique. J'avais 17 ans quand je suis arrivée là-bas. Et je commençais déjà à expérimenter beaucoup parce que je lisais des bandes dessinées depuis que j'étais vraiment gamine et j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis tombée très vite sur des trucs très expérimentaux aussi. Et j'avais envie en fait, de casser les cadres un peu et de faire des choses un peu spéciales. Et du coup, mes profs ne comprenaient pas ce que je faisais. J'avais des bonnes notes, donc ça passait, mais mes camarades étaient juste en mode « mais on ne comprend pas ce que tu fais ».
Mais qu'est-ce que tu fais, Joanne ?
Ça. J'étais trop en mode à faire la sorcière, en plus, à l'époque. Et être,
toujours aujourd'hui, je te rassure.
Toujours aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas encore aussi assumé. Mais ouais, du coup, je faisais beaucoup d'histoires sur des sorcières, justement, et des trucs comme ça. Et je faisais des bandes dessinées qui étaient super étranges, très ésotériques, genre avec des espèces de textes graphiques, en fait, qui étaient inspirés par de la musique à la base. Et je voulais que mes bandes dessinées, parce que c'est ce que je trouvais, c'est qu'en bande dessinée, tu peux faire comme des opéras, en fait. Ouais. Tu peux emmener un rythme, t'as le texte théâtral et t'as. Des couleurs qui me font penser à de la musique. Du coup, j'étais à fond à me dire, je vais faire des opéras, mais dessiner. Et voilà, bref, ça perturbait beaucoup de monde.
C'est très réussi, en tout cas.
J'ai mis 10 ans à développer des trucs pour que ça commence à fonctionner, mais au début, c'est vrai que c'était quand même bizarre. Okay. Ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait grave pas.
Mais il faut tester, je pense.
Ouais, mais c'était long. Comme je voulais faire un truc qui n'existe pas,
ouais.
C'était long.
Ça marche. Juste petite question pour les gens qui sont venus nous écouter. Est-ce que tout le monde l'a lu? Ok, parce que c'est prévu qu'on parle de ce qui s'est dit là-dedans. Du coup, je vais essayer d'aborder les choses sans spoiler. Enfin, après, je ne sais pas si on peut vraiment parler de spoiler, parce qu'il n'y a pas une vraie trame dramatique pendant toute la BD. Mais bon, je vais essayer de dire des trucs et de ne pas trop en dire non plus, du coup.
Après, tu vois, je considère que c'est un livre, même si tu en parles. Précisément, même si tu sors des phrases et tout ça, c'est tellement. Pour moi, c'est un livre qui est fait pour être lu. Et je pense, du coup, pour moi, ça gâche pas des surprises ou des trucs comme ça. Mais bon, okay.
Tout le monde est OK. Si on parle précisément de certains passages, ça va, tout le monde OK. J'ai pas envie que les gens se disent oh non, je voulais pas savoir ça. OK. Et du coup, justement, tu as évoqué un petit peu tes sources d'inspiration. Tu parles beaucoup de la musique. Je fais aussi un petit peu de musique. Mais ce que je trouvais aussi intéressant de poser comme question, c'est que, comme j'ai pu le dire là un petit peu, c'est une BD qui a une trame narrative assez particulière. C'est divisé en chapitres. Et les chapitres se répondent un petit peu entre eux, j'ai l'impression. Enfin, moi, de ce que j'ai pu en lire, parfois, il y a des petites choses qui reviennent. Mais ma question principale, c'était comment est-ce que tu l'as conçu? Est-ce que tu as conçu chapitre par chapitre? Est-ce que c'est des bouts de puzzle que tu as mis ensemble après? Comment tu as fait?
C'était très linéaire, en fait, parce que j'ai toujours les mêmes méthodes quand je commence à travailler sur un livre. Et donc, du coup, je m'étais juste dit... en fait, je me mets des contraintes quand je bosse sur quelque chose. Et là, du coup, je me suis dit, OK, ça fera 40 pages. Tes 40 pages, il faut que tu les divises en chapitres. Et donc, avant même d'avoir les idées de ce que j'allais faire dedans, j'avais déjà la trame, en fait, d'un point de vue graphique. Donc, je m'étais dit, bon, premier chapitre, 10 pages. Deuxième chapitre, un peu moins de pages. Et en fait, je voulais que ça aille crescendo. Oui. C'est pour ça que quand on démarre, le premier chapitre, c'est le plus long. Et au fur et à mesure qu'on arrive à la fin, il n'y a plus qu'une page, en fait. Il y a un chapitre d'une seule page. Parce que je veux que ça, comme une sorte d'accélération quand tu lis la bande dessinée. Donc ça, c'était un peu l'idée de départ. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça a perturbé beaucoup de monde. Et je crois que j'en suis assez contente, en vrai, parce que ça change vraiment de ce que tu peux lire habituellement. Et du coup, j'étais partie là-dessus. En fait, chaque chapitre, j'ai trouvé les titres d'abord. Et je sais que je voulais juste une vibe, en fait, général. Je fonctionne beaucoup en termes de vibe quand je travaille sur quelque chose. Et je me suis dit, bon, devenir, ça va parler de quoi, en fait? Parce que j'avais le titre en tête. Et à la base, la première histoire que j'ai écrite en 2020, parce que je l'ai réécrit 3 fois, ce livre, la première fois que je l'ai écrit, c'était sur une artiste trans qui fait une performance dans une église. Et elle se bataille avec le circuit administratif et avec simplement les gens de l'église pour avoir le droit de faire sa performance à l'intérieur. Donc normalement, c'était ça à la base. Après, j'ai trouvé que c'était trop une histoire normale pour moi. Donc du coup, ça ne m'allait pas. Je voulais faire quelque chose de plus poétique. Et du coup, j'ai fait une deuxième tentative où c'était plus autobiographique. Et cette deuxième tentative, c'était genre juste du texte. Et à côté, il y avait des illustrations. Et j'étais un peu frustrée par ça parce que du coup, c'était mettre de côté la bande dessinée alors que je voulais vraiment faire de la bande dessinée. Et troisième version, du coup, je me suis lancée du jour au lendemain. J'ai fait le premier chapitre d'un coup. Et je me suis dit, OK, c'est ça. Il faut fonctionner comme ça. Et j'ai tout écrit d'une traite après.
Juste par curiosité, ça t'a mis combien de temps de tout écrire d'une traite ?
Quand j'ai eu la troisième version,
ouais.
Je sais plus trop, mais c'était le chaos en fait. J'allais très mal quand j'ai écrit le livre, okay. Et donc du coup ça a fait vraiment des montagnes russes. Et c'était un peu galère. Je crois que j'ai eu des périodes où j'ai travaillé très fort et puis ensuite c'est calmé. Je pense que ça s'est étalé sur, mais je sais même plus en fait.
Parce que je sais qu'à titre personnel, tu peux avoir un rythme de production qui est complètement fou. Genre, oui. Tu peux aller très très vite. Et du coup, moi, je me suis posé la question combien de temps ça a pris, mais du coup, tu nous disais que c'était pas une première version, t'en avais déjà.
J'en avais d'autres. Et... C'est un livre un peu chaotique en vrai, parce que il y a rien de, même la manière dont je l'ai fait, en fait, j'étais en dépression totale quand j'ai écrit ce livre. Ça allait très très mal, je savais pas où j'allais dans ma vie, et j'avais plein de problèmes de santé, et j'étais juste portée à bout de bras par mes amis en fait à cette période-là. Et du coup, il y a un remerciement à la fin du livre parce que sans elle, en fait, j'aurais pas pu le faire simplement. Et pour moi, en fait, c'est un peu un tour de force ce livre parce qu'il aurait pas dû sortir. En fait, j'étais pas en état de faire quoi que ce soit au moment où j'ai fait ce livre. Donc c'est un peu un miracle qu'il existe.
Et ben, bravo.
Merci. Je sais plus quelle c'était la question, je me suis perdue.
Moi non plus, je sais plus ce que c'était la question.
Ah oui, parfois je vais vite, du coup, okay, effectivement. Oui, c'est ça. En fait, là, je travaille sur le deuxième livre qui s'appelle Humaine, et c'est un peu la suite. C'est un peu une suite à un point final à cette partie-là, parce que j'ai plus envie d'aborder ma transition à moi ensuite. Parce que ça parle de ça, essentiellement, de devenir, ça parle de vivre queer, finalement. Et d'être simplement dans la différence face au monde dans lequel on vit. Et le deuxième livre, ça parle, Humaine, du coup, c'est vraiment une autobiographie sur ma transition en particulier, une autobio poétique, du coup. Et ça fait 60 pages, et j'ai fait les 60 pages de crayonné avec tout le storyboard, etc. Enfin, c'est un crayonné final, donc ça veut dire qu'après, je fais de l'ancrage dessus. Et de la mise en couleur, ça m'a pris 2 jours.
Ouais, rapide, quoi.
Voilà. Mes 2 jours sans dormir, parce que j'avais un moment de peps, en fait. Je me disais, ah oui, c'est bon.
T'as saisi l'instant de création.
Voilà, c'est ça. Mais quand ça vient, je lâche pas et je ne mange plus, je ne dors plus.
Voilà. D'accord. d'un autre côté, c'est tant mieux pour nous, parce qu'on a plein de choses à se mettre sous la dent, quoi. Mais il faut faire attention à soi aussi, Johanna.
Je fais attention à moi. C'est un sport, en fait.
Un sport de haut niveau. J'avais une question aussi sur devenir, parce que ça parle de transidentité. Est-ce que devenir pour toi, le titre, c'est ce qui t'est venu en premier ? Est-ce que c'était une évidence ? Est-ce que tu as réfléchi un peu ? Ou est-ce que ça t'est arrivé comme ça ?
Ça m'est venu en premier, genre 2020, j'ai déjà eu l'idée du titre et je savais que je devais faire ça. Et en fait, j'ai commencé ma transition en 2020 et je pense qu'on met beaucoup de monde en fait. C'est bizarre parce que moi, c'était avant qu'il y ait le confinement, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y ait le confinement en 2020, ça a aidé beaucoup de gens à casser leur œuf en fait. Et du coup, je me suis perdue encore une fois.
C'était devenir, comment c'était arrivé ?
Comment ça m'est venu ?
Ouais, c'est ça.
Ben, du coup, j'étais concrètement devenir à ce moment-là. Parce que du coup, j'étais juste dans la projection quand j'ai fait ce livre. Quand j'ai commencé ma transition, ça faisait des années déjà que j'avais fait des simulations d'à quoi je ressemblerais. Parce que je ne supportais pas mon corps depuis très longtemps, de toute manière, et je ne me supportais pas moi-même depuis genre que j'avais... 15 ans, c'était très marqué. J'avais essayé de faire une première transition quand j'avais 15 ans en plus. Et ça a été empêché par mon père. Donc, genre un peu thérapie de conversion à cette période-là. Plus trauma religieux, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, en début 2020, j'étais là et je me disais, OK, j'ai projection de à quoi je vais ressembler. Je ne sais pas vers où je vais, donc du coup, je suis en devenir. Et j'avais juste envie de parler de ça, simplement. Donc c'était juste cette vibe-là que je voulais retranscrire. Parce qu'au final, je me suis dit, j'ai pas envie de faire une histoire qui est linéaire. Je veux juste donner une sensation de ce que je ressens. Et c'est pour ça que c'est aussi vaporeux, finalement. Parce que c'est juste une sensation, ce livre.
Je trouve que c'est super bien résumé, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu la première fois. J'ai lu 3-4 fois à peu près. Pour justement essayer d'en ressortir plusieurs choses. Et j'avais vraiment la sensation de lire une sensation, un peu comme une partition musicale presque. Donc,
ça me fait super plaisir parce que, effectivement, j'ai beaucoup de synesthésie. Et donc, du coup, quand j'entends de la musique, je vois des images, voire je vois des histoires complètes. Et quand je vois des choses, des images, ce genre de choses, j'entends de la musique. Et du coup, pour moi, c'est de la musique silencieuse, la bande dessinée, en général.
Ben, c'est très bien. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un pari réussi. Vraiment. T'as parlé un petit peu de tout ce traumatisme vis-à-vis de ton père ou du patriarcat en général. C'est un chapitre qui est spécifique. Je pense m'en rappeler dans ton livre. Et j'avais cette question aussi, comment tu as choisi les chapitres ? Parce que c'est des chapitres qui sont quand même assez autobiographiques. Qui sont complètement autobiographiques. Est-ce que tu as fait un tri ? Est-ce que c'est des événements qui t'ont marqué à un moment dans ta vie ? Tu dis, ça, il faut que j'en parle. Comment est-ce que tu as fait pour choisir ?
Je me souviens plus trop comment j'ai fait, j'avoue.
Okay.
je crois... En fait, quand je travaille sur quelque chose, même dans mes dessins, parce que généralement, je suis plus connue pour mes illustrations sur Instagram... Mais genre, c'est purement autobiographie tout ce que je fais. Enfin, c'est à chaque fois des choses qui me sont arrivées. Et sous le coup d'une forte émotion, la plupart du temps. Et du coup, le premier chapitre, je venais de me séparer avec quelqu'un, en fait. Et on avait une relation qui était super intense, dans un cadre super étrange. Et je sais que j'avais juste cette impression, j'avais cette image obsédante de deux femmes trans en flottement dans un hangar qui parlent d'amour. Et je me suis juste laissée à écrire ça, et je fais beaucoup... ma manière d'écrire, c'est juste des premiers jets. Et généralement, ma mère m'a un peu appris ça, ma mère est peint aussi. Et genre, elle m'a toujours appris qu'il fallait partir avec l'émotion première et garder ça. Et donc, elle, c'était genre, si je réussis pas cette toile en 15 minutes, elle est ratée. Okay. Et donc, du coup, je la voyais s'évertuer à faire des grandes toiles comme ça, et juste se lâcher dessus. Bon, c'est pas une peintre professionnelle, mais genre, elle avait tout le... toute la fougue, on va dire, de faire des choses très émotionnelles, très fortes. Et du coup, j'ai exactement ce même procédé quand je travaille. C'est que je pars de ces idées, j'écris d'un coup. Et généralement, c'est les crayonnés, enfin les histoires, j'écris ça très très vite. Et je reste là-dessus, genre je fais très peu de corrections. Je relis plusieurs fois, mais j'essaye de pas trop méditer non plus.
Tu anticipes toutes mes questions, Johanna.
Pardon.
J'allais te demander.
Je te sabote le travail, en
c'est
fait.
Ça, tu le fais toute seule, c'est super. J'ai rien à faire. Je voulais juste te demander, parce que moi qui suis poétesse, une BD poétique, c'est un objet rare, mais tu l'as dit toi-même, mais de mon point de vue, ça existe très peu. ou alors c'est des objets très spécifiques. C'est presque des objets ou des bijoux, tellement il y a cette chose de rareté. Et je voulais savoir, tu as répondu, comment tu fais pour aborder l'écriture poétique dans ton récit ? C'est un premier jet et après, du coup, tu laisses en fait.
Ouais, c'est ça. Enfin, je me laisse complètement aller en général. Enfin, comme je fais les dessins et le texte ensemble, je sépare jamais rien. Bon, je pense que prochainement, je vais séparer parce que je vais faire des choses un peu plus construites. Mais comme là, j'avais vraiment besoin de faire des choses qui étaient super abstraites. Et juste me laisser porter par une idée. Enfin, comme j'ai dit, du coup, je commence par une image dans ma tête qui me vient. Enfin, d'abord le titre, ensuite le titre me donne l'idée d'une image. Cette image, je vais essayer de l'étaler dans le temps, c'est-à-dire sur le nombre de pages et de cases que je me suis allouée. Et là, du coup, j'avais cette image de deux femmes trans qui flottent dans un hangar. Et j'ai juste voulu faire durer cette image à travers leur conversation. Et ensuite, c'est mon subconscient qui prend le dessus. Et comme, bien sûr, comme pas mal de femmes trans, je pense, ou même pas mal de personnes queer, j'ai des daddy issues. Du coup, ça part directement là-dessus. Genre, première histoire. Beaucoup trop relatable. Du coup, j'ai commencé avec ça. Et du coup, il y a cette conversation. Et juste après, ça parle de mon père, mais genre juste après, à la fin, en fait. Voilà.
Bah d'ailleurs, c'est un chapitre qui m'a beaucoup touchée pour la raison que tu viens d'évoquer. ok. Après, les questions que j'ai, c'est des questions autour de la transidentité. Parce que c'est au cœur de ton récit, forcément. Est-ce que pour toi, devenir. Je ne sais pas trop comment tourner cette question. Est-ce que c'est un livre que tu voulais offrir comme un témoignage, ou c'était quelque chose que tu avais besoin de sortir de toi parce que ben, c'était un besoin par rapport à quelque chose que tu vivais, ou est-ce que tu voulais un peu offrir ça pour que les personnes trans autour de toi puissent se sentir moins seules ou comprises ?
Ça a vraiment été quelque chose de particulier. Je sais que les premières idées, en tout cas, qui m'étaient venues, c'était de faire réellement un témoignage. Donc ça, et qui puisse servir autant à des personnes cis qu'à des personnes trans. Mais au fur et à mesure, ben c'est plus mon tempérament qui a pris le dessus. Et mon tempérament n'arrive pas, enfin, je n'arrive simplement pas à faire des choses construites ou documentaires. Ou quand j'essaye, c'est vraiment sur des petites choses. Genre sur Instagram, j'ai fait genre 2 ou 3 posts éducatifs. Ça me demande énormément d'énergie pour faire ça. C'est pas du naturel pour moi. Et donc j'avais essayé de faire ça avec Devenir au début, mais ça marchait pas. Donc du coup, il y a plus mon côté artsy qui prenait le dessus. Et au final, c'est plus... j'ai vraiment essayé de trouver un compromis entre un besoin de communauté, donner quelque chose à une communauté et aussi me faire remarquer par cette communauté pour pouvoir l'intégrer aussi. Quand j'étais au début, quand j'ai commencé à avoir ces idées-là, je connaissais personne. J'étais ultra isolée, j'avais pas d'amis. Et je pense que c'est juste, je pense que j'ai eu l'idée pour Devenir au moment où il y a eu les premiers cercles de parole transfemmes qui ont été créés sur Toulouse. Et ça m'a beaucoup portée. Et donc voilà, après j'ai pu commencer à me dire, ah tiens, j'ai envie de faire des choses pour mes amis en fait. J'ai envie de faire des choses pour des personnes qui me ressemblent aussi. Donc tout est mélangé en fait.
Oui, parce qu'il y a un chapitre qui est, c'est celui, le chapitre sur les fleurs. Qui est honnêtement mon chapitre préféré, et qui est en fait une dédicace à tes amis.
Oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. En fait, c'était les moments où j'avais très peur, parce que j'ai une amie qui est TDS, du coup, qui était très proche de moi, on est sortis ensemble à un moment. Et en fait, j'avais trop peur, parce qu'elle a manqué en fait, de se faire... trigger warning, super truc giga hard en général, mais elle a manqué de se faire tuer, en fait, par un de ses clients. Et on était sous le choc, on l'a récupérée, elle était sous le choc et tout. Et du coup, j'avais envie de les garder près de moi, tu vois, ces personnes qui sont ultra fragiles, en danger. Et j'avais juste envie de... Ouais, c'était une lettre d'amour, en tout cas, le chapitre sur les fleurs, sur toutes les personnes différentes, en fait, juste. Les personnes qu'on écrase et qui repoussent. Donc ça, ouais, c'était celui-là. Et c'est surtout... Ça, du coup, il fait écho au dernier chapitre.
Oui,
l'avant-dernier chapitre.
Oui, qui parle réellement du danger.
Oui, c'est ça. avec des gens qui s'introduisent dans des lieux sacrés. En fait, ça, c'est parce que du coup, dans cette dernière histoire, tu as des soldats qui arrivent pour massacrer deux femmes trans. Et elles se sont réfugiées dans une église. Pour moi, en fait, l'église, c'était juste le lieu sacré auquel on n'est pas censé toucher, en fait. Donc, c'était juste symbolique. Mais ils ne se gênent pas pour rentrer dans cet endroit sacré. Ils ne se gênent pas pour casser, pour venir et pour t'enlever tout ce que tu as de plus précieux, en fait. Mais dans ce lieu sacré, il y a une source à l'intérieur, et cette source est capable de redonner la vie. Enfin, voilà, pour moi, c'est très des choses qui me traversent. Genre, j'ai l'impression qu'on a... on est en danger perpétuel, et en même temps, on a les moyens de se ressusciter, en quelque sorte. Métaphoriquement, mais...
Métaphoriquement.
Voilà.
Si tu trouves le secret de la vie éternelle, dis-nous, s'il te plaît.
Je garderai ça.
Et du coup, est-ce que pour toi, en termes de public, c'est un livre pour tous les publics? Quand je veux dire tous les publics, c'est aussi des personnes cis. Est-ce que je suppose qu'il y a des personnes cis et non trans qui ont dû lire ton livre. Est-ce que c'est aussi un livre qui leur est destiné?
Je crois que j'arriverai pas à répondre.
Ok.
En fait, enfin, j'ai essayé de faire un livre. Enfin, comme j'ai dit à la base, j'avais essayé de faire un documentaire en quelque sorte. Au début, je suis passée complètement à côté.
Oui, ouais.
Ça avait été un documentaire, ça aurait été plus accessible.
Ok.
Le deuxième livre que je fais, Humaine, est beaucoup plus adapté. Je pense à des personnes de tout background. Mais par contre, pour devenir, j'avoue que je ne sais pas. J'ai l'impression que même comme c'est d'une comme c'est ultra poétique, ultra vaporeux, il y a des gens qui n'ont pas compris, simplement. Il y a une personne cis qui a laissé un commentaire sur Babelio dessus, qui est assez, pas trash, mais genre assez hardcore, en mode « Alors, j'aime bien ses illustrations, j'adore ce qu'elle fait, mais j'ai rien compris.
» Mais c'est honnête.
Au moins, c'est honnête, c'est sûr. Mais genre, c'était une personne cis qui avait l'air bien intentionnée et qui disait « Non, mais je lis plein de livres queer et d'habitude, je comprends, mais là, j'ai pas compris. » Et du coup, je me dis « Mais mince, en fait, je pense que c'est pas un livre qui est accessible. Je pense qu'il faut quand même se dire que c'est quand même un truc... Enfin, il y a aucune attache à des trucs qu'on connaît, en fait. Il y a pas d'histoire, il y a pas de personnage, il y a aucun nom de personnage. » Parce que souvent, quand je dis à des gens je fais de la bande dessinée, on me dit ah, tu fais de la bande dessinée, mais c'est quoi ton personnage? genre, j'ai pas de personnage, en fait, je raconte pas d'histoire, moi. Ça déroute, quoi. Donc ça demande, je pense, une certaine ouverture. Et en plus, comme c'est pas un livre qui est fait pour distraire, surtout.
Oui.
C'est pas l'idée. Et je pense que je fais aucun livre qui est destiné à distraire. J'aimerais bien faire une série à l'avenir qui soit plus divertissement.
Mais qu'est-ce que t'entends par distraire, du coup?
Pour moi, tout ce qui est distraction, c'est des choses qui t'emmènent dans un autre monde, un peu. Donc pendant un temps, tu lis un livre et tu es passionné par ce truc et genre, t'es emporté dans un autre univers. Et tu t'oublies dedans, un peu. Ou sinon, ça te rappelle des choses de ta vie, mais genre... Plutôt, tu es dans ce monde-là, et pendant un temps, tu vis dans ce monde-là, et ça te détend, en fait. Ça fait du bien. Moi, c'est un peu l'inverse, dans le sens où j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas fait pour s'oublier, c'est fait pour se souvenir de soi-même. C'est fait pour être dans la vie. Moi, j'ai envie qu'on lise mes livres et qu'on se jette dans le vivant. En fait, c'est un peu comme des sortes de... pas de mantra ou de prière, mais genre, c'est juste, tu ouvres ce livre et il y a des phrases, et genre, ces phrases, elles font écho avec toi. Tu es obligé d'avoir une lecture active, et ensuite, tu es obligé de vivre, en fait. Tu peux pas aller ailleurs, parce que tu es obligé de te confronter toi-même. Et ça, c'est le but de la poésie, je trouve. Enfin, en général, c'est... pour moi, la poésie, c'est pas un truc qui fait rêver, quoi, en partie. Mais c'est aussi quelque chose qui te force à goûter la vie, en fait, réellement. Genre, tu peux pas rester dans ton... Tu es pas dans notre monde. Par exemple, tu regardes juste une rose sur une table, tu regardes un verre, tu regardes les lumières qu'il y a dedans, et tu te dis, ouais, c'est beau. Et genre, tu restes juste à regarder ça comme ça. Ça, rien que ça, c'est de la poésie, en fait. C'est de l'intégration du monde qu'il y a autour de toi. Et c'est ce que, enfin, pour moi, du coup, quand je fais un livre, je veux que les gens puissent le lire et se mettre dans un mood de je regarde le monde autour de moi et je l'intègre en moi.
Est-ce que tu envisagerais de sortir un recueil de poésie sans illustration ?
Sans illustration, non.
Non.
Non, un recueil de poésie, oui, mais avec des illustrations sur le côté.
D'accord. C'était une vraie curiosité par rapport à ce que c'est pour toi la poésie, et du coup les mots et les images vont ensemble de pair.
Oui, pour moi, je n'arrive pas à les séparer en fait. J'ai déjà essayé de faire juste des textes seuls et ça me frustre en fait. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose et en plus, j'aimerais que tous les livres soient illustrés. Franchement, si je pouvais, j'illustrerais absolument tous les bouquins. Pour moi, c'est juste... je trouve que les mots sont faits pour être mis en valeur. Comme il y a eu pas mal de chanteurs et de chanteuses qui voyaient des livres de poésie, qui ont eu besoin de les mettre en musique. Je pense que c'est pareil. Moi, je vois un livre de poésie, j'ai besoin de le mettre en image.
Il y a dans Devenir une grande notion du sacré, notamment dans ton dernier chapitre, tu en as parlé un petit peu. Et ça, c'est quand même une de tes inspirations principales, l'impression dans ton travail. Tu parlais d'église, de lieu sacré. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça te vient ? Moi, ça m'intrigue, en tout cas.
c'est un peu complexe, mais c'est lié à plein de choses. Ma mère était extrêmement religieuse. Elle est toujours. Mais du coup, j'ai grandi dans une atmosphère qui était giga surnaturelle à la maison, parce que ma mère n'est pas seulement religieuse, elle est mystique. Donc, elle a eu des visions et tout. Enfin bref, ce genre de bail. Moi, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. J'étais athée dans un premier temps parce que mon père était athée. Et en fait, avec le temps, je suis tombée amoureuse de la musique religieuse. Super intensément, genre un truc de fou. J'ai entendu un requiem, le requiem de Forêt. Et genre, j'étais bouleversée, j'avais 16 ans. Et ça m'a emmenée à m'intéresser plus à la religion en général. Tellement bien que une période, genre avant que je transitionne, j'ai essayé d'entrer dans un monastère. Genre le gros déni. Et du coup, je suis restée pendant un an à faire des exercices pour devenir moine à l'époque, du coup. Et c'était une période où je me suis rendu compte de toutes les horreurs aussi qu'il y avait dans la religion en général. Je sais pas si j'ai perdu la foi, mais en tout cas, elle s'est transformée. Dans le sens où pour moi, c'est la poésie qui a pris le dessus. Et pour moi, la poésie, c'est une forme de sacré, en fait. Je ne mets pas de nom d'une quelconque entité ou quoi que ce soit au-dessus de moi. Genre, je crois pas réellement en quelque chose, à une église, en tout cas, ou ce genre de choses. Par contre, j'adore l'imagerie religieuse. J'adore les églises, surtout quand elles sont abandonnées, parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus d'être humain dedans, tu n'as plus de culte, et tu peux en faire un peu ce que tu veux. Et moi, j'ai une espèce de passion pour les lieux abandonnés et pour les églises abandonnées, du coup. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'atmosphère et comme une sorte d'ange qui habite les lieux, mais qui te dit rien, en fait, qui est juste là. C'est une musique particulière, en fait, quand tu rentres dans une église abandonnée. Ouais, pour moi, c'est ça, le sacré, c'est juste la musique du monde, comment tu perçois les choses, la vibe des choses.
Ça, je trouve que c'est hyper bien retranscrit dans ton livre. Il y a des images qui sont très grandes, qui font référence aux vitraux, dans ton travail en général. Donc ça se retrouve vraiment bien. Même en termes de couleurs, les couleurs, je trouve que tu utilises, elles font vachement référence aux vitraux qu'on peut retrouver dans les églises et tout ça.
Oui, complètement. En plus, j'ai fait un peu du vitrail de mon côté. Enfin, j'ai pu en faire. J'ai été assistante d'une personne qui faisait du vitrail. Et j'ai beaucoup étudié l'histoire de l'art en général. Genre, je voulais être prof d'histoire de l'art à une période. Et genre, du coup, j'ai été happée en fait par les tout premiers vitraux qui ont été faits, qui utilisent que des couleurs primaires. Et par les fresques religieuses, par toute cette atmosphère-là, avec quelque chose de très terreux, en fait. Et du coup, j'ai passé 10 ans en fait à développer ça, quoi, à chercher ces couleurs, à les développer, trouver un style qui allait, trouver les plumes qu'il fallait pour pouvoir avoir le trait qu'il fallait. Enfin, ça a pris des plombes, quoi.
Attends, tu nous as dit que tu avais été assistante d'une personne qui faisait du vitrail.
Rapidement, vraiment rapidement. C'était pas officiel en plus.
Ma question, Johanna, c'est qu'est-ce que tu fais pas en fait ? Est-ce que tu fais de la, tu fais de la musique, tu fais de l'illustration. On peut dire que t'es un peu poétesse quand même. Enfin, à mon sens.
J'aime bien que les gens le disent pour moi, moi je le dis
mais
pas.
Mais tu le dis pas.
Voilà,
d'accord. Moi je te le dis, tu es un peu poétesse quand même. on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ou je sais pas si tu l'as dit, mais tu fais un petit peu de danse.
Oui, j'en fais personnellement de mon côté.
Ok.
Mais après, c'est comme la musique. Tiens, j'ai fait mon premier concert à Lyon en novembre, un truc comme ça, dans un festival.
Ouais.
Genre, complètement à l'arrache. J'étais pas censée faire de concert. Mais il y avait un piano et un micro, donc du coup. Voilà.
Tu t'es dit, bon, bah c'est bon, j'y vais.
Voilà, c'est bon, j'y vais. Et du coup, je me suis lancée et puis j'ai pas eu. On m'a pas hué, donc du coup, je me suis dit que ça allait, à peu près.
On m'a pas jeté de tomates, du coup, ça veut dire que c'était OK.
Voilà, du coup, je réitère ça la semaine prochaine à l'itinéraire bis.
Noté.
Voilà. Mais ce sera très court, ce sera en première partie de Koji, qui est excellente aussi, qui fait de la super bonne musique. Bref, venez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après, ben, je fais de la sculpture. Bon, après, ça, sur la sculpture sur pierre, mais j'ai un peu abandonné ça sur le côté parce que ça demande beaucoup de matériel. Mais après, j'aimerais bien toucher à tout, en fait.
J'allais te demander quel est le média, là, maintenant, que tu aimerais toucher. Genre, si tu avais la possibilité de tout faire, là, dans l'immédiat, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais faire plus que les autres?
Non, je pense pas qu'il y en a un qui est au-dessus des autres.
Ok.
Je pense que la musique est un peu passée sous la trappe parce que j'ai sorti un premier album de musique et, genre, ça me. J'ai un peu atteint un truc où je me disais, ah, j'ai fait ce que je voulais.
Où est-ce qu'on peut trouver cet album, Johanna?
Sur Bandcamp. Il suffit de regarder Bandcamp, Johanna Folivelli. On peut tomber dessus, c'est Protogonos, le nom de l'album. C'est la musique expérimentale de sorcière, voilà, je préviens. C'est pas pour tous les goûts, c'est un peu du même acabit que la BD ici, c'est bizarre. Et après, j'ai fait un premier album juste avant, mais genre j'avais aucun matériel, donc il est un peu pourri.
Et cet album, par curiosité, tu l'as fait en combien de temps?
Protogonos?
Oui.
Je l'ai fait en 3 jours, je crois. Mais pareil, j'ai pas dormi. J'ai eu juste un moment, j'avais acheté du nouveau matériel, je m'étais dit, oh là là, j'ai trop envie de l'essayer. Et en fait, c'est sorti d'un coup, je me suis dit, ah ouais, je vais faire ça.
Une énergie créatrice qui, quand elle est là, tu peux pas l'ignorer. Quoi.
Non.
Il faut que tu fasses quelque chose avec.
Mais c'est le moment où je suis heureuse, tu vois.
Bah, c'est trop bien.
Ça me raccroche à la vie.
Waouh, moi je suis toujours hyper impressionnée quand je vois tout ce que tu peux faire et tout ce que tu peux produire. Et quand je vois que dans tes œuvres, il y a toujours, je trouve, une très grande justesse entre la violence et la douceur. Et je trouve que devenir, c'est, pour moi c'est ça, il y a des passages qui sont très durs à lire et des passages qui sont d'une douceur extrême. Et je voulais savoir un peu toi comment tu avais trouvé cet équilibre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as internalisé et que c'est comme ça que tu es finalement une personne très violente et très douce? une personne doucement violente ou violemment douce?
Violente, j'espère pas.
Non, pas violente, non.
La violence, en tout cas, je la ressens très fort.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose. Enfin, je sais que je suis. J'aime pas ce terme, mais je pense qu'on peut me classer dans la catégorie de personnes hypersensibles. Genre, je suis vraiment vite démolie par le moindre petit truc et je ressens tout extrêmement fort, et en bien ou en mal. Mais ça me fait des crises d'euphorie ou de désespoir qui sont très contrastées. Je pense que ça ressort dans mon travail, du coup. Et en même temps, j'adore tout ce qui est sirupeux, qui est long, qui est tendre, mais vraiment tendre à presque à l'écœurement, quoi. J'ai aucune peur de la niaiserie aussi. Ça, c'est un truc, quand j'étais à Bruxelles en 2019, j'ai un peu fréquenté des cercles d'artistes qui étaient assez variés, mais les cercles d'artistes que je fréquentais étaient genre ultra condescendants envers les gens qui faisaient de la poésie. Genre souvent, quand tu écris des trucs ou que tu faisais des choses qui étaient en rapport avec de l'amour ou des trucs qui étaient sérieux, en fait, simplement, c'était très mal vu, en mode... Ben, c'est nier ce que tu fais, c'est un peu nul, quoi. Et genre, on s'est moqué de moi, tu vois, plusieurs fois à l'époque. On m'a même humilié en soirée, enfin, c'était...
Ça, c'est violent, pour le coup.
Ouais, c'est violent, mais genre, il y a une espèce de culte du second degré chez certains artistes. Et je pense que c'est pour se protéger, tu vois. Mais du coup, dès que t'es vulnérable, on te tape, en fait. Genre, c'est comme à l'école, en vrai, c'est pareil. Mais après, j'ai passé des années moi-même à essayer du coup de trouver un équilibre entre ma niaiserie profonde, ma tendresse et la violence que je ressens en moi et reçue aussi. La violence dont je suis capable qui est venue d'années d'abus, genre quand j'étais plus jeune. Donc du coup, c'est un... ce travail, enfin, je pense que devenir, c'est la première fois que j'ai trouvé comment mettre correctement ces équilibres-là en place. Parce qu'après, j'ai fait plein de BD sur 10 ans, mais il n'y en a aucune qui a été éditée. Elles ont toutes été refusées, et moi-même, j'en étais pas heureuse. Donc voilà. Devenir, c'était la première fois où je me disais, tiens, là, je pense que c'est bon.
Okay. Et j'ai l'impression que devenir aussi, enfin, je me dis si je me trompe, hein, mais que c'est un peu comme une déclaration de vulnérabilité, mais assumée, et que du coup, ça devient une force.
Ouais, complètement.
Tu dis vraiment, je suis vulnérable, mais du coup, puisque je peux le dire, ça me rend forte.
Je me rappelle après ces histoires de 2019, du coup, à Bruxelles. J'ai été extrêmement choquée pendant un an. Enfin, j'ai eu une relation très compliquée où, qui était giga violente. Et quand je suis sortie de cette relation, je me suis dit, je vais être tellement vulnérable que ces personnes qui m'ont fait du mal vont se désintégrer. Tellement je serai vulnérable. Et je pense que devenir, c'est un peu la concoction de tout ça, quoi.
Mais il y a un chapitre, justement, où il y a un personnage qui, je suppose, fait référence à toi, qui est face à une statue, et t'es vraiment en mode de... Je vais t'anéantir avec ma douceur, en fait.
Ouais, complètement. Je me souviens plus comment il m'est venu, ce chapitre, mais je crois que j'étais quand même en train de... Enfin, j'ai pas besoin d'être sous influence, tu vois, en général. Mais j'avais juste un assemblage d'images qui m'est venu avec juste ces statues froides, parce qu'en fait, j'avais juste l'impression que le patriarcat, c'est des statues froides. C'est juste ce culte, d'ailleurs, ces cultes faux, d'ailleurs, des sculptures grecques toutes blanches en marbre qui n'ont jamais existé à la base. Elles étaient toutes peintes, elles étaient toutes colorées. Et du coup, souvent pour moi, ces statues de marbre sont une grosse représentation du patriarcat. Et du coup, c'était très symbolique pour moi de dessiner un personnage qui me ressemble et qui détruit ces statues. Et de ces statues sort, y a un nourrisson qui en sort. Et ce nourrisson se transforme en oiseau et s'envole. Genre, c'était vraiment partir de ce qui est dur, froid, qui est censé en imposer. Et que ça redevienne une chose molle et chaude et vulnérable qui s'enfuit dans le ciel. Enfin, c'était voilà, ouais. C'était genre j'ai envie de changer les choses et que tout le monde puisse juste être soi-même en fait, qu'on n'ait pas besoin de se blinder. Ça fait vraiment du mal à tout le monde de se blinder à fond. J'ai l'impression en tout cas.
Et en tout cas, il y a vraiment, mais t'en parlais un petit peu au début, il y a vraiment une progression dans ta BD. Où au début, enfin, j'ai l'impression qu'on part de quelque chose qui est d'assez froid et on traverse des épisodes assez violents, mais en fait, on va toujours vers quelque chose de mieux et de beau avec devenir. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, enfin, est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de voir venir, devenir vrai en fait, plus de sécurité? Moins de patriarcat. C'est une fausse question. Hein.
Non, mais clairement, ça, c'est sûr. En tout cas, on a une espèce de truc assez pernicieux sur les réseaux sociaux où on a tendance à... On donne des informations qui sont extrêmement anxiogènes. Et je pense que ça nous démolit vraiment tous, vraiment, de voir ces informations-là. Elles sont de plus en plus violentes, en plus. Vraiment, enfin, il y a une montée du fascisme, hein, simplement. Quand on voit ça, ça peut que démolir. Et croire en mieux, c'est très dur. C'est extrêmement dur. Et j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour dire, OK, on est dans cette situation-là, mais ça ne va pas être éternel. Et il y a forcément du mieux, il y a forcément déjà rien qu'entre nous, en fait, on peut s'apporter de l'amour et du soutien, même s'il y a des dissensions, même si forcément c'est compliqué. Ce sera toujours compliqué de toute manière, la relation humaine c'est toujours un gros pataquès en vrai, mais j'ai pas envie de faire des trucs qui soient complètement noirs ou complètement blancs. Je veux faire des choses qui soient à l'image de la vie qu'on vit actuellement et qui soient voilà, entre ces mélanges de violence et de douceur.
Tu parlais des réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un bon moyen de communication pour toi. Parce que tu passes beaucoup par Instagram. Enfin, moi, c'est comme ça que je t'ai connue, par exemple. Et est-ce que c'est un espace, entre guillemets, safe pour toi, où tu peux t'exprimer, ou est-ce que c'est encore un lieu où, justement, tu fais face à de la violence ?
C'est entre les deux, en fait, parce qu'il faut que je fasse très gaffe à ce que je mets sur Instagram. Donc, du coup, après, c'est un lieu public. Et c'est, forcément, quand tu parles aux gens, il faut que tu fasses attention quand même à ce que tu sois correctement comprise. Et il faut te faire super gaffe à ce que... Je sais que ça va très vite, en fait, de froisser des gens pour rien, avec des formulations qui sont mal faites. Et je le comprends, en fait. Parce que tout le monde est super sensible, en fait. Et du coup, il y a plein de gens qui se plaignent de ça, mais en vrai, c'est normal aussi. Quand tu vois des informations qui te font du mal passer, t'as pas envie de te recevoir ça. Donc, du coup, je fais toujours très, très attention à ce que je mets sur Instagram. C'est pas que je me censure beaucoup, mais je pèse tous mes mots. Et j'essaye de prendre en compte tout le monde, mais après, tu peux pas prendre en compte tout le monde, donc je fais toujours de mon mieux. Après, c'est une énorme charge mentale aussi de recevoir beaucoup de messages, d'essayer de répondre au mieux aux gens quand je peux. Je peux pas répondre à tout le monde non plus. À l'époque où je pouvais, je répondais vraiment à tous les messages qu'on m'envoyait. Maintenant, je peux plus le faire. C'est pas un endroit où je me sens safe. C'est un endroit où je me sens safe avec la communauté qu'il y a, parce que j'ai une chance énorme. J'ai l'impression que les gens qui me suivent sont adorable, genre je suis dépassée par à quel point tout le monde est adorable dans cette commune. J'ai jamais rencontré des gens qui étaient ultra chiants, qui m'ont fait du mal. J'ai rencontré des gens qui avaient des difficultés, mais c'était assez rare, et qui ont eu beaucoup de maladresse envers moi, mais ça allait parce que c'était vraiment très rare aussi. Mais pour moi, mes espaces vraiment safe, je sais pas où il y en a, en vrai. Ça change, c'est fluctuant.
Devenir, c'est un espace safe, peut-être.
C'est une tentative d'espace safe.
Ok. peut-être une dernière petite question. Après, je pense qu'on pourrait peut-être passer autant de questions avec vous. Questions pratico-pratiques. C'est quoi le matériel que tu utilises pour dessiner les couleurs ? Est-ce que tu as des marques préférées, des stylos préférés ?
C'est du matériel que j'ai mis 10 ans à rassembler, à me décider là-dessus. Donc, en général, je travaille pour tout ce qui est aquarelle sur du papier arche en coton. Donc, c'est du papier un peu de luxe. C'est un peu le truc qui me fait pleurer à chaque fois que j'achète des feuilles. Plutôt 300 grammes, donc du coup, c'est vraiment assez épais. Et ça me permet de faire des aquarelles qui sont... c'est ça, en fait, qui me fait popper les couleurs quand je fais des aquarelles. Depuis que j'ai découvert ça, je me suis dit, j'utilise plus jamais quoi que ce soit d'autre. Mais en gros, ça me permet de faire ressortir toutes les couleurs extrêmement fortement. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est des encres de couleur que tu utilises ? Et en fait, non, c'est juste des aquarelles. Donc, je n'utilise que des aquarelles normales, mais c'est le papier qui fait ressortir le pigment. Après, j'utilise une plume, vraiment à l'ancienne. Je ne travaille pas du tout à l'ordinateur. Vraiment, les plumes avec de l'encre, des plumes calligraphiques. Et voilà, en fait, ça se résume à ça, simplement.
Trop bien. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Johanna ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, déjà, moi, je vais te remercier pour cette BD. Genre, je crois que quand je l'ai eu entre les mains, j'ai mis 3 mois à la lire parce que je savais que j'allais recevoir quelque chose qui allait m'impacter. Et je crois que maintenant, c'est un peu une boussole pour moi dans la manière où elle rassasie en donnant un peu d'autres images et d'autres célébrations auxquelles on n'a pas forcément l'habitude, qu'on fait partie de la communauté LGBT, qui a certaines manières de sexualiser les corps ou de parler des choses, il y a quand même une certaine forme d'hégémonie. Et du coup, chaque fois, moi, j'ai l'impression d'être super rassasiée, comment dire, waouh, il y a vraiment un endroit d'intimité là qui parle de quelque chose de précis et qui, en même temps, donne fin, comme rassasiée, en même temps, avec une fin à la fin de cette BD, de waouh, il y a tout ça, il y a tous ces endroits-là à aller chercher et à se laisser prendre un peu par les portes qu'elle ouvre un peu dans la tête. Et donc déjà, merci pour ça, pour cet objet. Maintenant, je la lis plutôt régulièrement, tu vois, genre, et c'est trop bien. Et j'avais une question, du coup, parce que je te connais un peu. Et c'est genre, moi, j'aimerais un conseil de Johanna Folivelli, qui serait quels objets on pourrait mettre autour de nous, quelle musique on pourrait écouter pour accueillir Devenir, qu'on a envie de se poser un peu dans l'appart. Je sais pas, il pleut par exemple.
Oh, c'est une trop bonne question.
Voilà.
J'adore. Déjà, merci beaucoup. C'est adorable. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec ? Je pense que c'est un livre qui peut se lire déjà à n'importe quel moment de la journée. Il vaut mieux être seul, il vaut mieux être posé dans son coin, dans sa chambre, dans un endroit où on se sent bien, avec des coussins, c'est cool les coussins. Niveau musique, je pense que j'aurais pas vraiment de musique à conseiller. Je dirais plutôt quelque chose où il n'y a pas de paroles, en tout cas. De la musique instrumentale, c'est très bien. Je ne sais pas trop, j'avoue. Je pense que ça me viendrait peut-être plus tard pour des références. Mais j'écoute beaucoup trop de musique et là, ça ne me vient pas en tête directement. Mais ça va avoir. Un thé, il faut un thé avec. Un thé bien chaud. Voilà. Si ça répond à ta question.
C'est parfait. Des coussins, un thé.
Des coussins.
Quelqu'un d'autre ? Moi, j'ai une question. ta prochaine BD, est-ce que tu as déjà une date de sortie ?
Non, pas du tout.
Ok.
Là, j'en ai juste parlé à mes éditrices. Elles sont super chaudes pour le voir et pour l'éditer. Enfin, on doit discuter encore quand même, voilà. Mais pour l'instant, j'en suis juste au stade de finir le dossier d'édition.
Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ?
C'est pas une question sur le livre, mais je suis curieuse si tu aurais d'autres artistes que tu nous conseillerais qui font pas exactement ce que tu fais, mais aussi de la poésie, des illustrations, que ce soit en BD ou d'autres formes.
Alors, ben merci pour la question déjà. Matou déjà. Vraiment, je conseille son compte La Félicie sur Instagram.
Ouais.
Voilà, parce que je me dis que c'est la meilleure chose pour commencer quand même, comme tu es juste là.
Merci, ça me touche beaucoup.
Voilà, des linogravures, de la poésie, c'est super.
Merci.
Je conseille fortement. Comme il y a des personnes dans la salle, je vais faire les personnes dans la salle en vrai. On a Rosa Ventadou juste ici. Du coup, danseuse, je conseille très fortement de regarder ce qu'elle fait aussi. Il y a Fiona aussi qui a Aaron sur Instagram.
Fiona, elle fait vraiment une tête de... Oh non !
Qui est cachée. Voilà. Je conseille très fort des illustrations queer qui sont super belles. Qui c'est qui me vient en tête aussi ? Il y a Luz Volkmann. Luz Volkmann, j'adore son travail, poétesse, du coup. C'est un coup de cœur, déjà en tant que personne, c'est une personne incroyable. Et pour moi, c'est vraiment une des plus grandes poétesses vivantes actuellement. Donc, lisez son travail, Luz Volkmann. Qui est-ce qu'il y a encore qui me vient en tête ? Je pense qu'il me faut du temps, en général, pour faire les listes de prénoms et de gens. J'ai des listes énormes de personnes à conseiller. Mais peut-être que je ferai un récap sur Instagram demain, histoire de boucler la boucle un peu. Voilà.
Merci. Okay.
Quelqu'un d'autre, peut-être ?
Bonsoir. J'ai pas du tout lu votre livre, mais du coup, ça donne très envie. Je suis très contente d'être venue. Merci Mathilde d'avoir dit. Voilà. Mais je me posais la question, un poème, du coup, ça doit être illustré, mais est-ce que, pourquoi pas, en rajouter de la musique à un recueil illustré de poèmes ? Est-ce que ça serait quelque chose que vous feriez ?
Alors, justement, c'est le projet de quelque chose que je vais faire dans les années à venir. Bon, ça va prendre du temps.
Mais là, 4 jours.
Non, quand même pas. Je sais pas, je suis en train de finir le deuxième livre que je suis en train de faire. Et le troisième livre, j'ai déjà en tête et j'ai déjà commencé à faire les premières esquisses.
Bah oui.
Et ce sera un livre qui sera avec un QR code à l'intérieur. Donc ça va être bande dessinée giga poétique, ça va être encore plus abstrait que devenir. Mais ça va être extrêmement graphique en fait. Il y aura pas. S'il y a du texte, il sera vraiment très vaporeux. Pour le coup, ça va vraiment être de la poésie pure. Avec de la bande dessinée, des illustrations, et le QR code renverra sur un album de musique que j'aurai composé qui ira du coup avec l'album. Donc ça, c'est dans mes plans. Mais oui, clairement, je trouve que... Bon, il ne faut pas en faire trop, parfois. mais dans certaines dans certains contextes, oui, ça serait super beau d'avoir juste même un livre avec un livre de poèmes, genre, je sais pas, même les poèmes de Louise Volkmann, en vrai, avec de la musique qu'on écouterait à côté, ce serait super, en vrai, par exemple. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Et du coup, si tout le monde est OK, on peut peut-être passer à la séance de dédicace, mm-hmm. si toi, t'es chaud, ouais, que t'as le poignet échauffé.
À fond, complètement.
Du coup, merci beaucoup, Johanna.
Mais merci à toi.
Je vais juste parler de mon travail, deux petites minutes. Auto-promo. Du coup, sur Instagram, moi, je suis Félicie. Et donc, je fais de la poésie, de la linogravure et du théâtre aussi. Ce que j'ai amené ici ce soir, c'est un fanzine que j'ai fait avec une amie à moi qui est photographe, qui s'appelle Saskia Vaidis, que vous avez dans le petit coin là-bas, c'est le petit lutin avec les lunettes. Et c'est donc un fanzine qui parle de ma réduction mammaire, parce que j'ai fait une réduction mammaire il y a maintenant 2 ans. Et en fait, ça part du principe que moi, quand j'en ai décidé d'en faire une, j'ai voulu me documenter. Je n'ai trouvé aucune documentation jolie avec des photos où les personnes qui avaient fait la réduction étaient mises en valeur. À part sur les forums de type maman.com ou elle.fr, je n'ai rien trouvé de probant. Et donc, j'avais besoin de faire ma propre documentation poétique et photographique pour que ce soit ensuite accessible aux personnes qui veulent faire cette opération. Avec des photos qui sont jolies et des poèmes qui retracent une évolution corporelle et sentimentale. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est là aussi, il est disponible. Voilà.
Voilà, et je vous remercie beaucoup du coup d'être venu. Ça, voilà, ça me touche beaucoup de voir qu'il y a du monde aussi. Ça. J'avais un peu peur.
Merci Johanna.
C'était Rencontre avec Johanna Folivelli autour de sa bande dessinée Devenir, parue à 2 Points Éditions.
Radio Livre Dormir.